Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Nouvelles du Monde, nous sommes le mardi 12 mai. Et on ne fait pas de sommaire, on y va direct, on part aux États-Unis, du côté du Tennessee, un état du sud de ce grand pays, les USA, où les républicains viennent de démanteler une circonscription à majorité noire. Une mesure très symbolique et surtout avant tout une image, une photo hein, qui illustre parfaitement ce qui est en train de se passer dans une partie des États bleus hein, des États-Unis. Cette image où on voit deux députés noirs, démocrates élus, qui sont expulsés manu militari, donc par les forces de l'ordre, de la Chambre des représentants du Tennessee. Ça rappelle fortement les années 50 et la ségrégation. C'est donc Justin Pearson et Justin Jones, hein, ils sont tous deux députés et avocats, démocrates élus, et expulsés donc de cette Chambre des représentants, parce que, ils contestaient justement ce qui s'y passait. Ce qui s'y passait, c'est que les élus républicains décidaient de supprimer le vote noir. C'est une manière, on va expliquer un petit peu comment, suite à des recommandations de la Cour suprême, qui avait déjà dans cet état d'ailleurs supprimé le droit à l'avortement. Alors comment ça se passe légalement cette histoire? Eh bien, c'est de plus en plus fréquent d'ailleurs dans de nombreux états hein, qui sont les plus à droite des États-Unis. Les élus républicains avaient déjà éliminé en grande partie le vote des étudiants, puisque ceux-ci votent souvent contre Trump, tout simplement en ne reconnaissant plus, par exemple, la validité pour aller voter de cartes d'identité étudiante, et donc en obligeant ceux-ci à prendre une carte d'identité nationale. Et or, aux USA, ça se fait très peu. Hein. Elle est difficile à obtenir, et en plus, elle coûte très cher. C'est donc hors de portée de la plupart des bourses des étudiants, justement. Eh bien, donc une nouvelle entourloupe ce jeudi dernier, c'est l'Assemblée législative du Tennessee, qui est contrôlée donc par les Républicains, qui a approuvé le redécoupage des circonscriptions électorales. Et oui, toujours ces petits enjeux de circonscriptions, on connaît ça un petit peu chez nous aussi. Ça peut permettre de modifier un petit peu les résultats des élections. Donc, le redécoupage de ces circonscriptions électorales fédérales, tel qu'il est redécoupé donc, au Tennessee, permet de morceler la circonscription qui était plutôt à majorité noire de Memphis, afin donc qu'il n'ait pas de représentant noir, et dans l'espoir d'envoyer une délégation entièrement républicaine à Washington. Dans un pays donc, où le découpage électoral à des fins partisanes est autorisé, cette décision de la Cour suprême va permettre aux républicains de diluer ce qu'on appelle le vote noir, donc en gros, les résultats des élections par la population majoritairement noire, qui vont voter plutôt démocrate, afin d'éliminer entre 15 à 20 circonscriptions où des électeurs noirs peuvent élire un des leurs à la Chambre des représentants. Les groupes conservateurs et les dirigeants républicains ont salué cet arrêt. Évidemment, en face, il a été décrié par de nombreux juristes, des démocrates ou héritiers de Martin Luther King. Eh bien, cet arrêt est donc un triomphe en soi. C'est aussi le triomphe de ceux qui l'ont porté. Le président de la Cour suprême, John Roberts, l'auteur de cet arrêt, Samuel Alito, et donc une autre idée de la liberté. Ces deux personnes, là, John Roberts et Samuel Alito, ils ont fait leur entrée à la Cour suprême des États-Unis à 4 mois d'intervalle, il y a 20 ans. Ils partageaient déjà depuis des décennies une aversion pour les Voting Rights Act, donc l'amendement des droits au vote. Selon le juge Alito, cette carte se fonde sur des critères raciaux pour créer une deuxième circonscription qui est susceptible de permettre aux Noirs de l'État d'élire un des leurs à la Chambre des représentants. Il s'y est donc opposé, car selon lui, toujours, ces critères violent le 14e amendement de la Constitution qui garantit l'égalité devant la loi. C'est un peu le monde à l'envers, hein, si on considère que justement cet amendement a été adopté à la base pour garantir l'égalité des anciens esclaves noirs et de leurs descendants. On retrouve chez nous le concept de... c'est une critique de la discrimination positive utilisée par des personnes qui veulent maintenir justement les classes dominantes au pouvoir. Hein. C'est ce qu'on peut voir chez nous quand on utilise... quand on entend utiliser la notion de racisme anti-blanc, notamment à l'extrême droite. Cet ajustement, en tout cas aux États-Unis, permettra donc aux républicains de diluer les résultats du vote noir et donc démocrate, au point d'éliminer entre 15 à 20 circonscriptions, je vous le disais, dans celles où des électeurs noirs auraient pu justement élire quelqu'un de leur communauté. Et donc certains États du Sud n'auront plus que des élus blancs et républicains à la Chambre, alors que la proportion d'électeurs noirs ou hispanophones est très élevée. Et je vous ai dit que ça s'est passé dans le Tennessee, mais donc cet arrêt qui vient d'être pris à la Cour suprême concerne possiblement tous les États, et donc ça peut notamment avoir des effets beaucoup dans le sud du pays. Voici ce que réagissait à ce sujet la NAACP. C'est une organisation historique de défense des droits civiques des Noirs américains du Tennessee suite à celle de l'Alabama. Voici leurs mots. « Les communautés noires du Tennessee ont été réduites au silence et victimes de brutalité pendant des siècles. C'est ici que le Ku Klux Klan est né et que Martin Luther King a été assassiné. Les habitants noirs étaient confrontés quotidiennement à la violence raciale et à l'oppression légale. Pour voter, ils devaient payer des taxes électorales et passer des tests d'alphabétisation conçus pour les réduire au silence. Nous sommes indignés que l'État, au lieu de rechercher un système plus juste et équitable, cherche à faire régresser le Tennessee à une époque où nombre d'entre nous n'avaient pas l'égalité des droits. Nous combattons ce découpage électoral avec acharnement. » Un petit public ennemi pour illustrer tout cela. On revient chez nous avec un petit best-of un peu de ce qui s'est passé récemment au niveau municipal, notamment dans les mairies qui sont passées aux mains du Rassemblement National. Vous l'avez peut-être entendu parler, c'était un week-end de commémoration du 8 mai, donc victoire contre le nazisme. Il a été un petit peu tordu et justement vidé de sa signification dans nombre de ces mairies. Ça, c'est tout d'abord à Carpentras que c'est arrivé. On a pu entendre la fameuse chanson « Maréchal, nous voilà » sortir des haut-parleurs de la ville, hein, une chanson à la gloire de Pétain. Elle a été diffusée à l'occasion de ce 8 mai sur la place de la mairie de Carpentras, il y a des vidéos qui l'attestent, donc en pleine journée de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ça a fait hurler pas mal de gens. Le maire de Carpentras, donc RN, Hervé Delépineau, a été contacté. D'abord, il a contesté les images. Puis finalement, face à l'évidence, a expliqué aux journalistes que cette chanson avait bien été diffusée, mais qu'il ne le savait pas, à l'insu donc de la commune. Et il a précisé d'ailleurs que la précédente municipalité avait passé un contrat avec un prestataire qui avait fourni cette playlist pour la journée, et il annonçait qu'il allait rompre ce contrat et porter plainte contre ce prestataire. Ouais, c'est une belle défense, on va dire.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
À Alès, une agression qui a eu lieu à la Feria 2025 au Prolé a été finalement jugée. Trois jeunes sont renvoyés en correctionnel. C'était il y a près d'un an, le 31 mai dernier précisément, que des violences avaient été commises au Prolé d'Alès, donc un bar associatif de gauche, hein, historique même des militants communistes, le fief de la Fiesta Sevenol pendant la Feria. Une agression violente avait éclaté dans l'enceinte du café et depuis, donc, une enquête était en cours pour essayer d'identifier les agresseurs. Eh bien, ce 11 mai 2026, le procureur d'Alès a confirmé qu'il renvoyait devant le tribunal correctionnel les trois jeunes qui ont été interpellés, une vingtaine d'années tous les trois. Ils seront poursuivis pour des violences aggravées et les trois sont suspectés d'appartenir au bloc identitaire d'extrême droite de Montpellier, mais eux nient la participation à ces événements du Prolé. En tout cas, le tribunal correctionnel d'Alès se penchera sur le dossier dans la capitale Sevenol le 6 octobre prochain. Voilà. Je reste sur les mairies RN. Là, on a aussi appris que dans la commune de La Flèche, qui est la première ville de l'Ouest qui a été remportée par le RN lors des élections municipales de ce mois de mars, eh bien, ça y est, le premier conseil municipal s'est tenu le 30 avril, et donc le vote du budget 2026, très attendu et très politique. Eh bien, donc, avec malgré tout une certaine surprise, on a appris donc que les subventions allouées à Le Carrois, qui est le nom d'un acteur culturel de cette commune de 15 000 habitants, le principal acteur culturel, avait diminué de 50 000 euros de subventions de la part de la ville. A savoir que c'est quand même la deuxième ville du département de la Sarthe, et donc Le Carrois faisait office de grosse scène pour pas mal de spectacles. Alors que le maire en campagne, lui, avait promis à l'époque de ne pas toucher aux subventions des associations. Ça faisait partie de ses promesses de campagne. Mais au deuxième tour, 34 associations avaient appelé à un vote républicain, donc contre lui. Visiblement, cela ne lui a pas plu. Et dans tous les cas, il a mené donc cette politique d'austérité qu'on connaît contre le monde de la culture. Du côté de Carcassonne, la mairie menace d'expulser la CGT de leurs locaux de la Bourse du Travail, hein, qu'ils occupent depuis 89 ans. La CGT parle d'une volonté de les bâillonner et de bâillonner tout ce qui gêne. Voté aussi en conseil municipal, toujours à Carcassonne, par cette mairie RED, c'était la Ligue des droits de l'homme qui se faisait virer de son local, hein, qui était fourni par la mairie. On est dans les halles Nicole Habar. Et il supprime aussi le prêt du local, mais aussi la subvention, petite subvention d'environ 300 euros, qui était attribuée jusque-là à la Ligue des droits de l'homme. D'ailleurs, à Carcassonne, des militantes féministes du groupe Femen ont brièvement perturbé ce dimanche 10 mai la cérémonie en hommage à Jeanne d'Arc qui était organisée par la mairie de Carcassonne. Ils sont arrivés seins nus, comme le font régulièrement, en gueulant « féministe, pas fasciste ». Ils se sont fait huer devant environ 200 personnes qui étaient rassemblées sur le parvis de la cathédrale et très rapidement interpellées par les forces de police. On peut parler aussi des arrêtés municipaux pris dès les premiers jours d'investiture de pas mal de ces mairies Rassemblement National, des arrêtés anti-mendicité hein, pour nettoyer les centres-villes des clochards, des arrêtés anti-regroupement, comme par exemple à Béziers par Robert Ménard, mais il l'avait déjà fait par le passé, et aussi à Perpignan. Et enfin, de manière générale, du côté de comment se passent justement ces conseils municipaux, au niveau de l'opposition, les élus d'opposition dénoncent régulièrement un manque d'information envers eux, des non-invitations aux événements officiels ou bien une réduction du temps de parole en conseil.
Un fasciste de merde.
Et on termine cette petite série sur l'extrême droite en France avec des nouvelles de cette manifestation qui devait se tenir le 9 mai. J'en avais parlé organisée par le comité du 9 mai, le C9M. La manifestation qui avait été demandée à l'appel de ce groupe néofasciste avait été interdite par la préfecture de police de Paris. On pensait que peut-être, comme les années précédentes, elle serait réautorisée sur décision du tribunal administratif, mais non, la préfecture a maintenu l'interdiction, tout comme l'interdiction de la contre-manifestation donc antifasciste, qui s'intitulait, elle, « Pas de nazis dans Paris », qui s'était aussi annoncée le même samedi après-midi. Donc finalement, ni l'une ni l'autre n'ont pu avoir lieu. Mais il y a quand même des petits groupes qui se tournaient autour dans la capitale. Et il y a eu pas mal d'interpellations, 47 gardes à vue, notamment chez les néofascistes, mais aussi chez les antifas. C'était pour la première fois donc depuis 2008, quand même, il faut le noter, que ce rassemblement des militants d'extrême droite n'a pas pu se tenir. Ce qui n'a pas empêché certains activistes les plus motivés de la mouvance d'investir les rues parisiennes en mode ratonnade de milice, quoi. Ce qui a incité, du coup, des sympathisants de l'initiative Pas de nazis dans Paris, eux aussi, de se balader dans les rues. Grosse ambiance dans le centre-ville de Paris. Selon le bilan établi donc le dimanche matin 10 mai, les forces de l'ordre ont procédé à 94 interpellations, dont 47 gardes à vue, principalement, donc, je vous disais, des militants d'ultra-droite, mais aussi des militants antifascistes. Il n'y a pas eu de grosses bagarres et de victimes à déplorer. C'était par exemple dans les secteurs de République, des Pyramides, Saint-Michel et Montparnasse. Des militants des deux mouvances ont tenté de se regrouper dans les rues de Paris avec l'objectif de se confronter, mais en ont été empêchés, a poursuivi la préfecture de Paris, en ajoutant donc qu'il n'y avait pas eu de bagarre et aucun blessé. Un peu plus tôt dans l'après-midi, 9 personnes avaient déjà été placées en garde à vue pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Ils avaient sur eux des gants coquets, des matraques télescopiques et des couteaux. Eux faisaient partie donc de l'ultra-droite. On voit aussi peut-être se rejouer ce qui s'était passé et qu'avait à Lyon, qui avait provoqué la mort de Quentin Derenck. Et c'est principalement pour ça que la préfecture de Paris a mis les moyens cette année pour pas qu'un drame se déroule à nouveau. 12 autres personnes ont été verbalisées pour non-respect d'un arrêté d'interdiction. Et je vous le disais, donc selon une source policière, les 9 premières gardes à vue, c'était des manifestants néo-nazis. L'an dernier, la manifestation avait initialement été interdite par la préfecture, puis réautorisée par le tribunal administratif, et ce qui avait amené à un millier de militants d'ultra-droite défilant dans les rues de la capitale, pour la plupart le visage masqué, tout en noir, en rang militaire, avec des symboles associés à l'idéologie néo-nazie.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Côté justice, ce 6 mai, c'est le porte-parole du collectif Bassine Non Merci, Julien Leguet, qui a été condamné. Il était déjà harcelé par la police et la justice depuis des années, hein, puisque c'est la figure médiatique mise en avant et donc sur laquelle on fait reposer pas mal de choses. Il était convoqué devant la cour d'appel de Poitiers ce 6 mai dans le cadre de poursuites contre lui pour une manif qui remontait au mois d'octobre 2022. Une manif organisée à Sainte-Soline contre les méga-bassines, donc une énorme et joyeuse manifestation qui s'était divisée en trois cortèges. Avait donc réussi à déjouer le dispositif policier sur place et envahi le chantier d'une méga bassine. Bon, un trou en cours de fabrication. C'était donc pour eux une réussite populaire et un camouflet pour le gouvernement, qui s'est donc vengé hein, contre cette figure de la lutte, et d'ailleurs a fortement réprimé la manifestation de l'an dernier de Sainte-Soline en 2023, où là ça a été plutôt le chaos et le carnage. En tout cas, pour cette affaire, après 4 ans de procédure, donc Julien Leguet a été condamné très lourdement à 6 mois de prison ferme, qu'il va devoir purger sous bracelet électronique et il est assigné à résidence. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée à mon encontre, a-t-il déclaré, choqué en sortant du tribunal. La peine est très sévère, hein, parce que les faits pour lesquels il était poursuivi, c'était participation à un groupement, menace de destruction, vol d'une pelle, et des inscriptions sur un panneau. Voilà. Des faits qui semblent assez dérisoires en toute objectivité, vu l'actualité. Et bah donc quand même 6 mois... 6 mois au bracelet électronique et aussi d'ailleurs une des amendes. Hein. Il devra verser plus de 20 000 euros à la coop de l'eau, donc la coopérative qui gère l'eau, pour les dégradations et le préjudice moral. Pauvre chou. Ce militant va continuer à subir l'acharnement de la justice parce que c'est pas fini. Il doit encore comparaître devant la cour d'appel de Poitiers dans les semaines qui viennent. Cette fois-ci pour l'organisation de la manif de 2023. Qui avait été réprimé sous un déluge de grenades explosives, causant d'ailleurs le coma de 2 manifestants et la mutilation de dizaines d'autres par les projectiles lancés très abondamment par les forces de police. En revanche, dans cette affaire, aucun gendarme ne sera poursuivi, malgré des témoignages accablants et les vidéos qui ont été notamment diffusées cette année par Mediapart. Voilà, en tout cas, les militants anti-bassines ne désarment pas et ils ont, peut-être aussi pour faire écho à cette audience en justice, ce 8 mai, revendiqué le débâchage d'une nouvelle action de méga-bassines dans le Poitou. Ils ont débâché, donc ils ont attaqué, dégradé la bâche qu'on met dans ces grands trous donc, qui forment ces méga-bassines. C'était dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Le communiqué a été relayé ce vendredi 8 mai. Le collectif s'est baptisé l'Amicale pour le débâchage permanent du Poitou. Et il a écrit vouloir envoyer un message clair à l'État, aux collectivités et aux entreprises. Il n'y aura pas de répit tant que les bassines seront en état de marche. Une des retenues d'eau qui a été ciblée par cette action appartient à l'entreprise d'élevage industriel de poules qui s'appelle Pampreuf. Et voici ce que disent les militants dans leur texte. Cet agro-industriel souhaite agrandir un élevage déjà immense de centaines de milliers de poules pondeuses parquées en bâtiment. Face à cela, notre riposte est celle du sabotage. Aujourd'hui, c'est une bassine. Demain, de nouvelles cibles pour briser toute envie de prévoir des poulaillers industriels à Pamproux, Vaugeton et partout où il le faudra. Leur communiqué a été visible sur le site des soulèvements de la terre. Et le préfet des Deux-Sèvres, lui, a réagi par communiqué. Il condamne avec la plus grande fermeté ce qu'il définit comme des agissements intolérables.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Des nouvelles d'autres militants, ceux qui étaient détenus par l'armée israélienne, Thiago Avila et Saïf Aboukeshek, ont été finalement libérés, on l'a appris hier, après avoir été détenus pendant plus d'une semaine par Israël et avoir subi des tortures physiques et psychologiques. Ce sont les deux coordinateurs, enfin ils font partie des coordinateurs de la flottille, là aussi des figures médiatiques. Ils ont donc retrouvé la liberté. Il y a eu plusieurs rumeurs qui ont circulé concernant leur libération imminente dans la journée de dimanche. Et donc la confirmation a suivi, ils pouvaient à nouveau rentrer dans leur pays respectif. Pour ce qui est de Saïf Aboukeshek, il est arrivé donc en Espagne hier à Barcelone, et Thiago Avila, lui, est brésilien, et il est en ce moment en transit dans un avion pour retourner donc vers son pays. Tous deux avaient été enlevés par l'armée israélienne dans les eaux internationales, près des côtes grecques de l'île de Crète, donc on est quand même à un petit millier de kilomètres de Gaza, c'était pas vraiment la zone d'action normalement de Tsahal. Ils ont été interpellés aux côtés de plus de 180 militants de la Global Soumout Flotilla, cette flottille qui tentait de rejoindre les côtes gazaouis pour apporter de l'aide humanitaire. Mais donc, eux, à la différence des autres militants interceptés qui ont été directement déportés, débarqués en Grèce, eux ont été déportés vers l'État d'Israël, ce qui constitue donc, au niveau du droit international, une capture et une détention totalement illégale, hein, en toute violation des règles du droit international. Et cela au cours d'une intervention qui, elle aussi, se fait en dehors du droit international contre des navires transportant de l'aide humanitaire et bien en delà de toute eau territoriale ou ligne rouge ou quoi que ce soit qu'Israël réclame sur la Méditerranée. Pour ce qui est de ces deux détenus, une fois arrivés en Israël, ils ont mené une grève de la faim dès leur arrivée pendant plus d'une semaine, tandis que les appels à leur libération immédiate se multipliaient dans différents pays. Leurs avocates avaient d'ailleurs révélé que tous deux subissaient des tortures psychologiques et physiques, hein, des traces évidentes de coups sur leur visage, soumis à de longs interrogatoires, maintenus 24 heures sur 24 sous un éclairage puissant pour ne pas qu'ils puissent dormir, de la torture blanche. Face donc aux condamnations venues du monde entier et à une détention intenable politiquement, Israël a finalement dû faire marche arrière et abandonner cette nouvelle attaque contre ces deux militants. Et c'était, on s'inquiétait un petit peu de la suite de leur sort. Conclusion de l'article, un de ces articles qui relate ceci sur le site Révolution Permanente. Cette libération, dit-il, ne doit pas faire oublier ce pourquoi Thiago et Saïf se sont engagés sur la flottille, à savoir dénoncer la poursuite du génocide à Gaza, de la colonisation en Cisjordanie et de toutes les politiques criminelles de l'État israélien dans la région. Et je conclue et je prolonge cette brève pour vous relayer un appel à dons. Des dons de matériel de cinéma, ça peut aussi être des dons financiers d'ailleurs, mais en tout cas un petit éclairage sur cet asso qui s'appelle macharawifilms.org, une asso donc qui aide à l'apprentissage du cinéma pour aider à la réalisation de films donc, et l'apprentissage des techniques de cinéma, c'est en Palestine, un fonds qui vise à donner donc aux cinéastes de Gaza les moyens d'agir grâce à un soutien financier, à une formation aussi. Cela leur permet de raconter leur histoire par le biais du cinéma. Il vise également à aider les cinéastes à exprimer leurs récits, leurs émotions et leurs rêves en bâtissant des ponts avec diverses communautés du monde entier. Donc voilà, vous pouvez les aider avec des dons financiers sur leur site, c'est macharawifilms.org. Mais surtout en ce moment, donc, est lancée sur le territoire national français une collecte de matériel de tout genre. Je m'y connais pas beaucoup, mais vous pouvez les contacter donc via ce site et il y a des points de collecte, notamment à Marseille, Toulouse, Paris, Rennes, etc. Ça se fera jusqu'à la fin du mois d'août pour acheminer ensuite, donc j'imagine, un conteneur ou en tout cas des paquets pour Gaza pour les aider à faire des films sur place. Et on termine ces nouvelles du monde avec des nouvelles de l'omnibus au niveau européen et de l'autorisation des pesticides, de l'épandage de pesticides, notamment ici par drone, épandage aérien donc. Eh bien, il vient d'être autorisé, il est réautorisé en France pour des substances à faible risque. C'est une porte dangereuse qui s'ouvre avec cette exception. C'est une consultation publique sur les textes d'application de la loi du 23 avril 2025 qui est passée en catimini. Elle autorise donc l'épandage des pesticides par drone et la consultation vient de s'achever. Il faut savoir que depuis 2011, la pulvérisation aérienne de pesticides est interdite en France, mais à l'époque, ça concernait principalement les avions ou les hélicoptères. En 2018, la loi Egalim a ouvert une expérimentation de 3 ans, donc jusqu'à 2021, ciblée sur des parcelles en forte pente, des bananeraies et des vignes-mères. Donc les bananeraies, ça va se passer plutôt en Guadeloupe et les vignes-mères, plutôt vers chez nous aussi, notamment autour de l'Hérault, de l'Aude, etc. Donc, l'expérimentation sur des parcelles en pente, donc où théoriquement on ne peut pas passer avec un tracteur, qui se limite aux produits de biocontrôle et aux produits qui sont autorisés en agriculture biologique et aux produits à faible risque. Ça, c'était la première expérimentation jusqu'à 2021. Et suite à celle-là, donc une loi du 23 avril 2025 portée par le député Jean-Luc Fugit, qui vient du Rhône, et elle a été adoptée au Sénat par 237 voix pour et 97 contre, pérennise donc l'usage des drones pour ces cas spécifiques. Génération Future, une ONG qui s'inquiète et qui informe et alerte sur les intoxications, notamment en pesticides, dénonce ainsi ces projets d'arrêtés et de décrets qui ignore les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Ces décrets vont favoriser des intérêts économiques au détriment de la santé humaine et de l'environnement. Certes, explique-t-il de Génération Future, Pauline Servant, qui est toxicologue chez Génération Future, il s'agit pour l'instant en général de molécules moins dangereuses. Mais il peut y avoir des risques pour les milieux ou pour la santé humaine malgré tout. Par exemple, dit-elle, pour l'huile de paraffine, le FSA a identifié des risques inacceptables pour les milieux aquatiques, notamment pour les invertébrés, donc des risques de tuer la biodiversité dans les mares, étangs et petites rivières. Parmi les points d'inquiétude dans ce projet d'arrêté concernant les drones, ceux-ci seront autorisés à voler à une hauteur de 3 mètres au-dessus des plantations à une vitesse de 18 km/h, avec une distance de sécurité minimale des habitations ou des points d'eau de seulement 10 mètres. Donc à 3 mètres de hauteur et à 10 mètres de distance, vous doutez bien que les produits ils peuvent tout à fait se déposer aussi en dehors de la culture. L'ANSES d'ailleurs reconnaît et considère que cette distance de sécurité n'est pas suffisante. Dans un avis du 9 décembre 2025, l'agence de santé recommande de limiter la vitesse, donc d'aller moins vite, et la hauteur du drone autant que possible pour protéger la population et les écosystèmes de ces dispersions aériennes. Mais surtout, le texte de loi là, qui est en train de passer ouvre la possibilité de nouveaux essais sur d'autres types de parcelles ou de cultures, et ce pour une durée maximale de 3 ans, donc ça s'élargit. Encore plus inquiétant, les interdictions d'épandage à moins de 250 mètres des habitations ou dans des espaces naturels protégés avaient été carrément supprimées. Au départ, donc je vous le disais, on était limité à la bananeraie et aux vignes, mais on est en train de l'étendre à d'autres cultures, et ce qui inquiète Génération Future, ce serait de l'étendre ensuite à d'autres produits, eux peut-être moins inoffensifs, ou en tout cas pas encore complètement testés. Surtout que ce décret d'arrêté arrive alors que le paquet législatif européen Omnibus, lui, veut ouvrir grand la porte aux épandages aériens. Et en effet, on voit qu'il y a une énorme dérégulation sur la question des pesticides utilisés en agriculture. Jusqu'à présent, il fallait respecter plusieurs conditions pour pouvoir faire de l'épandage aérien, notamment qu'il n'y ait pas d'autres solutions viables avec des mesures de protection spécifiques, toujours dans l'idée de protéger les habitations et les riverains. Or, avec cet omnibus, donc ce paquet de lois de simplification au niveau européen, eh bien, toutes ces précautions sautent et cela va faciliter l'application de l'usage des pesticides par drone. Donc si jamais cet omnibus venait à être adopté, cela reviendrait à abolir l'interdiction d'épandage aérien des pesticides, qui avait pourtant été édictée pour toute l'Europe en 2009. Et on voit bien dans quel sens va le vent au niveau européen, puisque la Commission européenne est déjà en train de prévoir de mandater son autorité de sécurité des aliments, donc de l'EFSA, pour développer un guide d'application. Donc ils sont déjà en train de prévoir les plaquettes qui vont autoriser tout cela. En tout cas, ce paquet législatif européen, donc l'omnibus, lui, doit être adopté ou pas au mois de juillet. Côté français, maintenant que la consultation publique vient de se finir, le décret d'application, lui, devrait être rapidement publié. Quant au débat démocratique, lui, reste pour l'instant ignoré.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Et un petit café, c'est pour ça.
C'était un article que vous pouvez retrouver sur le média en ligne La Relève et La Peste. Voilà, et en guide de petit remontant, on va finir en musique. Est-ce que j'ai ramené le morceau que je voulais vous passer déjà ? Non, attendez, 2 secondes, il faut que j'aille le choper dans l'ordinateur. J'ai pas été jusqu'au bout de la manip. On va s'écouter la dernière sortie du groupe Kneecap, des rappeurs irlandais qui chantent notamment pas mal, qui chantent en partie en irlandais. Le morceau s'appelle Headcase et il va partir d'ici 2-3 secondes. Allez, on se quitte là-dessus. Jeudi, c'est férié, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde.
so for the your meaver. Got me here edging and know with a young man fever. Up on it, ruminating, seething. Cause it's a counter show, they don't believe in him. Shake their chin to show my action shit, air John, you're the shit law. We got the shit cock, they smoke. Got Harry and they got the shit cock, we're here, no fuck. See a couple of lords, I'm shit from the top. He's trying to make fun of a time or five. Can't even curve, I'm gonna go mad. Can't even arch like a boy, bully fork, keep it up, big man. Hard for the time, dead in the street, with his head in the sand.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.